Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Aurélie. Je poursuis avec elle le tour du monde des soignants grâce à son témoignage qui nous vient tout droit d'Allemagne, où elle exerce en tant qu'infirmière depuis une dizaine d'années. Bonne écoute! Bonjour Aurélie!
Bonjour Marielle!
Bienvenue au micro de Compresse et Sparadrap.
Merci beaucoup, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Écoute, plaisir partagé, nous sommes très exactement, parce que j'ai fait mes recherches, séparés de 616,6 km, puisque nous discutons de deux pays frontaliers. Et pour commencer cette conversation, je te laisse te présenter pour les personnes qui nous écoutent.
Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai bientôt 35 ans, je suis infirmière diplômée depuis fin 2009. J'habite en Allemagne, à Francfort, depuis 2012, mais en Allemagne depuis mon diplôme en 2009. Je suis mariée, j'ai trois enfants qui ont 7, 4 ans et demi et 21 mois. Et j'aime beaucoup...
Vous avez bien travaillé.
Merci. Et j'aime beaucoup la pâtisserie. Je trouve que c'est quand on n'habite pas en France, c'est quelque chose qui rapproche vraiment de notre culture, de nos racines. Et j'aime beaucoup la couture. Et j'aimais bien voyager dans une autre vie, mais maintenant, c'est un peu compliqué. Et voilà, c'est à peu près tout.
Donc, diplômée d'une école d'infirmière française, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de devenir infirmière? C'est quelque chose qui était prévu depuis que t'étais toute petite, ou comment c'est venu?
Non, en fait, c'était pas du tout prévu. J'ai une maman qui est infirmière et qui avait toujours dit qu'elle voulait pas que ses enfants deviennent infirmières. Donc vraiment pas du tout. Et en fait, c'est quand j'étais au lycée, on a fait un portrait chinois et on m'a demandé, et si tu étais un métier, qu'est-ce que tu serais plus tard? Et j'avais dit, comme ça m'est venu, j'ai dit je serais sage-femme. Je me suis dit, bah ouais, c'est une super idée en fait, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais pas aller en école d'ingénieur parce que la prépa me faisait peur. Et donc je m'étais dit, bah voilà, sage-femme. Alors je me suis beaucoup renseignée et... désolée, il y a mon chat. Je me suis beaucoup renseignée et puis je me suis rendu compte qu'on était obligé de passer par la première année de médecine. Et donc après mon bac avec mention eu sans problème, je m'étais dit, bah voilà, ce sera une formalité. Donc je vais à la fac de médecine et puis là je me rends compte que en fait, il faut travailler, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Apprendre par cœur, chose dont on m'avait toujours dit que c'était idiot et que ça ne servait à rien. Et moi, j'aimais bien comprendre les choses pour les apprendre. Je me suis retrouvée un peu larguée, j'ai redoublé ma première année de médecine, comme beaucoup. Et au concours, à la fin de l'année, je me suis trouvée sur 2000 élèves, parce que c'était sur 2000 étudiants, parce que c'est une fac qui avait fusionné. Sur 2000 étudiants, je me suis retrouvée 525e. Et à la fin de l'année, on réunit les 500 premiers dans un amphi pour choisir qui va aller en médecine, qui va aller en dentaire, qui va aller en kiné, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des kinés, et qui va aller en école de sage-femme. Et la dernière qui est partie en école de sage-femme, je me rappelle, elle était 497e. Moi, j'étais 525e. Je me suis retrouvée, mais dans un état lamentable, en disant « Non, non, mais ils vont me rappeler Il y en a deux, trois qui vont se désister, voilà. » Exactement, mais vraiment la grosse phase, les 7 étapes du deuil, voilà. Et donc j'ai passé mon été 2006 à pleurer. Et un jour, maman me dit, écoute, là, il serait peut-être temps de t'inscrire en école d'infirmière. À l'époque, il y avait des concours d'entrée à l'école d'infirmière en septembre quand il restait quelques places, en fait. Et maman me disait, cherche une école qui va faire un concours en septembre. Et puis j'avais dit non, je veux aller en fac de bio. Ils vont me rappeler, et puis sinon j'irai en deuxième année de bio. Mais pour aller en deuxième année de fac de bio, il fallait la moyenne, et moi j'étais à un point sur 180 de la moyenne, un truc comme ça. Et j'étais vraiment deux ans de fac à l'époque, ça paraissait monstrueux.
C'est vrai.
Et du coup j'avais pas du tout envie de refaire une première année, et donc je me suis retrouvée un peu un peu sans savoir ce que je faisais là en école d'infirmière.
Avec l'idée d'une carrière, d'une spécialisation derrière, ou non, t'es plutôt partie là-dedans en disant bah, je vais voir où ça me mène.
Oui, j'étais vraiment très, très ouverte parce que du coup j'avais pas trop d'idées de... Même en ayant une maman infirmière finalement, j'avais pas du tout d'idée de ce que ça représentait. De ce que j'étais amenée à faire et du tout, je ne savais pas du tout dans quel service je voulais travailler.
Donc, et ta maman avait exercé dans quel type de service ?
Alors, quand j'étais petite, elle était libérale, ensuite elle a été en maternité et là, depuis la naissance de mon frère, donc depuis 27 ans maintenant, elle est en médecine du travail.
Oui, donc déjà des exercices assez variés.
Voilà,
oui, donc tu avais déjà un bon aperçu de ce que la profession pouvait offrir, c'est-à-dire beaucoup de choses.
Ouais.
Et alors ces 3 années de formation, ou 3 ans et demi à l'époque, parce que c'était un petit peu plus de 3 ans, ça s'est passé comment ?
Ben écoute, ça s'est super bien passé. Une fois que j'ai compris que ben, il fallait... Il fallait rebondir en fait. Je me suis laissée porter. J'ai trouvé ça pas si dur que ça finalement, parce que je pense qu'après la première année de médecine, je pense que t'es armée pour la suite. Et du coup, moi j'ai trouvé ça plutôt cool les études d'infirmière, les terrains de stage. Il y en avait où je me plaisais beaucoup, d'autres où je me plaisais moins. Typiquement, la maison de retraite, j'avais détesté. J'avais adoré les soins, les unités de soins continus. Et j'avais adoré l'HAD, et je m'étais dit l'hospitalisation à domicile. Et je m'étais dit, voilà, quand j'aurai un peu plus de bouteilles, après quelques années d'exercice, j'irai exercer à domicile.
Donc à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà en couple avec l'homme qui est devenu ton mari par la suite ?
Alors, je l'ai rencontré à la fin de ma deuxième année, puisque la deuxième année se terminait au mois d'octobre, un truc comme ça. Une des premières choses qu'il m'a dites, c'était qu'il avait fait un stage en Allemagne et qu'il avait un poste qui l'attendait au chaud en VIE à l'époque, en volontariat international à l'étranger, après son diplôme. Et puis à l'époque, je lui avais dit « Ouais, mais bon, l'Allemagne, bon, ça fait pas rêver ». Clairement, et puis je lui ai dit non, mais d'ici là, t'as le temps de trouver. Il devait avoir son diplôme quelques mois avant moi, puisque lui il devait être diplômé en juin. Et donc je lui avais dit, bah, t'auras le temps de trouver autre chose dans un autre pays un peu plus cool, quoi. J'étais prête à partir à l'étranger parce qu'avant de le rencontrer, j'avais vraiment envie d'aller passer 3 mois en Angleterre. Enfin, dans des pays normaux où on parle des langues normales. et donc voilà, j'espérais vraiment qu'il trouve un job aux États-Unis ou je sais pas où. Et en fait, il se trouve que bah, c'était la crise de 2008 et qu'on était bien contents qu'il ait un job. Et donc en fait, il devait commencer en février 2010. Et comme j'ai eu mon diplôme en décembre 2009, on est parti... en Allemagne, pas très loin de la frontière. À l'époque, on était à Karlsruhe.
Alors du coup, l'idée d'être à la frontière, pour toi, j'imagine que c'était une bonne première étape pour pouvoir continuer à exercer côté France, le temps de se familiariser avec la langue. D'ailleurs, tu parlais pas du tout allemand à l'époque, hein, si c'est bien ce que tu m'as dit dans le message.
Oui, exactement. Alors je parlais pas du tout allemand en arrivant en Allemagne. Les quelques mots d'allemand que je connaissais, c'était pas des très beaux mots, puisque c'était pas mal de citations de films... De films sur la guerre, donc c'était pas souvent des mots très sympas. Et donc, j'ai travaillé à la frontière dans un hôpital où la plupart des collègues et des patients parlaient alsacien. Et donc c'était déjà un premier pas. Ça m'a vraiment surprise parce que moi, en arrivant de ma banlieue parisienne, j'imaginais pas du tout que les gens parlent vraiment la langue locale. Et du coup, j'étais un peu... Ah oui, c'est toi qui parles pas alsacien.
Et puis pas juste des mots par-ci par-là, vraiment une langue en
soi.
Ah
ouais, c'était vraiment une langue. Et ça ressemblait beaucoup à l'allemand, mais c'était pas tout à fait l'allemand. Et du coup, bah, je me suis un peu prise au jeu. J'ai appris quelques mots. Et ça m'a bien aidée après pour les intonations, l'accent. Et à un moment, j'en ai eu ras-le-bol de faire la route. Et j'ai pris des cours au début juste avec un DVD... et un micro comme maintenant pour apprendre à l'oral aussi. Et puis j'ai posé ma démission, j'ai pris des cours intensifs d'allemand 5 heures par jour pendant 6 semaines.
Et puis, ah oui.
Ouais, en fait, ça m'a vraiment bien aidée à me lancer à l'oral parce que j'avais très très peur. Les Français ont souvent ce défaut d'avoir très très peur de parler dans les langues étrangères.
c'est vrai.
Et du coup, ça m'a vraiment, vraiment aidée. Et je conseille ça à tout le monde.
De vraiment faire une formation intensive et de s'y mettre plusieurs heures par jour à fond, quoi.
Ouais, ouais, exactement. Et puis en plus, comme c'est un cours fait par un Allemand avec que des étrangers, la langue commune pourrait... La facilité serait que la langue commune soit l'anglais. Pour certains, c'était la solution. Mais en fait, je trouve qu'on n'apprend rien. Et si la langue commune n'est pas l'allemand, ça sert à rien. Et du coup, c'est drôle parce que mon mari qui avait fait LV1 allemand au collège et au lycée, il a un accent français qui persiste et qui est dur. Et en fait, moi, du coup, j'ai pris l'accent local vraiment.
Tout de suite.
Je fais assez bien illusion.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est vu que vous avez appris de deux manières différentes, peut-être que toi, le côté chantant de la langue, tu l'as intégré plus vite que lui, qui avait peut-être un apprentissage plus scolaire à l'époque, collège et au lycée, quoi.
Ouais, exactement.
Ah ouais, donc c'est quelque chose que tu conseillerais, voilà, pour quelqu'un qui doit apprendre la langue allemande. Enfin, moi, je parle un peu allemand, j'ai beaucoup, beaucoup perdu, mais c'est une langue que j'ai trouvée très compliquée à apprendre et qu'on perd très vite si on la pratique pas suffisamment. Et c'est ce que tu conseillerais, de trouver un prof allemand qui crée ses cours en allemand et qui prend pas le biais de démarrer en français ou en anglais, comme tu disais.
Ouais, ouais, exactement. En plus, en Allemagne, c'est assez répandu, ce genre d'école de langue. C'est pas forcément très onéreux. Il y a des écoles qui sont tout à fait valables, plus ou moins publiques. Je pourrais te donner les références si jamais...
Ah bah volontiers. Ah ouais, les mettrai dans la description de l'épisode, volontiers.
Ouais. Il y en a dans toutes les villes, c'est génial.
Bon, alors voilà, une fois que l'allemand c'était bon, quelle a été l'étape suivante?
Alors l'étape suivante, une fois que l'allemand a été bon, ça a été de me présenter un peu en touriste partout. Enfin, en fait, à l'époque, avec mon mari, quand on est arrivé en Allemagne, on était au courant de zéro démarche. Et à chaque fois, on était vraiment en mode touriste. On est allé par exemple, tu vois, chercher... On voulait avoir un abonnement Internet dans notre appart. On est allé chez un fournisseur d'accès qui nous a dit « Bon, bah, il nous faut vos coordonnées bancaires. » Alors on dit « Bah, voilà. » Et puis, on lui sort nos coordonnées bancaires françaises. Puis il nous dit « Non, non, mais votre banque allemande. » « Ah ben, on n'en a pas. » Donc, on va à la banque. Et à la banque, on demande « Bah... On voudrait ouvrir un compte. Ah bah oui, mais vous êtes inscrit à la mairie. Ah bon, il fallait s'inscrire à la mairie. » Donc voilà, ça a été ça. L'arrivée en Allemagne, c'était ça. Et quand j'ai voulu exercer en Allemagne, je me suis présentée à pas mal de maisons de retraite en me disant, bah, vu mon niveau d'allemand, je ne vais pas aller dans un service trop technique. Je bossais en réa en France à l'époque, mais je m'étais dit, bah, je ne vais pas aller dans un service trop technique. On va aller en maison de retraite. Et en fait, ici, la formation, j'ai appris après, est séparée. Il y a les infirmières de maison de retraite, les infirmières pour les enfants, les infirmières de psychiatrie. C'est pas une formation unique pour tout le monde.
D'accord.
Et donc, personne ne m'a jamais répondu parce que j'étais infirmière. Et je suis allée dans un hôpital et je suis allée, mais vraiment en touriste, je suis allée voir. Bonjour, je voudrais parler au responsable, au cadre infirmier. Qui m'a reçue, qui comprenait pas très bien ce que je faisais là, et puis qui m'a dit, mais vous bossiez dans quoi avant? Alors je lui dis, en France, j'étais en réa. Et il me dit, dans ce cas-là, j'ai un poste en réa chirurgicale, venez. Et je dis, oui, enfin, en fait, mon allemand est pas très bon. Et puis il me dit, non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un stage, déjà, de 2 mois, pour voir, et voilà. Et donc il me dit, ce qu'il faut faire, c'est déjà, il faudrait peut-être vous inscrire à la sécu. Il faudrait peut-être vous inscrire aux impôts, parce qu'il me faut un numéro pour vos impôts. Et il faut surtout faire reconnaître votre diplôme. Alors, le diplôme... j'ai fait un petit peu toutes les démarches. La sécu, je suis allée pareil. Je suis allée toquer à la porte, dire voilà, je voudrais un numéro de sécu, pas de problème. C'est hyper simple en Allemagne, vraiment super simple.
Ah, tant mieux. Et ça fait plaisir,
ça. Ouais, il y a beaucoup de choses très compliquées, mais ça, c'est simple. Okay. Et en fait, pour la reconnaissance du diplôme, alors c'est vraiment une formalité. Il faut faire traduire le diplôme. À l'époque, il ne fallait pas un niveau de langue spécifique. Aujourd'hui, il faut le niveau B2. Quand tu apprends une langue, en fait, tu as plusieurs niveaux. Et B2, c'est le niveau vraiment intermédiaire haut. Et à l'époque, moi, j'avais un B1 et... Ouais, c'était un peu dur, mais je m'en sortais au quotidien, et donc je suis allée m'inscrire. On m'a rien demandé, aucun justificatif pour la langue. On m'a juste demandé mon diplôme traduit.
Et cette formalité pour faire traduire le diplôme, elle est payante, j'imagine?
Ouais, il faut trouver un traducteur assermenté, c'est payant. Après, ça dépend du traducteur, hein, de ce qu'il prend, mais le fait d'enregistrer ton diplôme auprès des autorités, pour le coup, ça c'est gratuit.
Et après, c'est valable à vie, une fois que tu es.
Alors, c'est valable à vie, mais moi je me suis enregistrée. L'Allemagne, c'est un état qui est fédéral, et donc je me suis enregistrée dans la région de Karlsruhe et le Baden-Württemberg. Et quand j'ai déménagé ensuite à Francfort en 2012, je suis arrivée en Hessen, qui est un autre État fédéral, qui est un autre Land. Et donc, ce qui est valable en Baden-Württemberg était valable en Hesse, donc on m'a rien demandé.
Okay.
Mais si j'avais été à Berlin, par exemple, et que je sois descendue en Baden-Württemberg, comme souvent dans le Nord, ils sont un peu moins sévères que dans le Sud pour certains trucs, il est possible que j'aurais dû réenregistrer mon diplôme.
D'accord.
Mais okay. Voilà.
Sinon, ça reste des formalités. Alors, en dehors de tous ces détails administratifs, étant donné que l'Allemagne et la France sont deux pays européens, voilà, le diplôme est valable facilement, j'ai envie de dire, sur les deux pays.
Oui. Dans le sens France vers Allemagne, oui. Dans le sens Allemagne vers France, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des stages obligatoires. Là, en l'occurrence, moi, le stage que j'ai fait, c'était vraiment juste pour la langue. Et au final, mes collègues m'ont tous dit que c'était pas très utile que je fasse ce stage. Donc j'ai fait 2 mois en stage, mais c'était comme si je faisais partie de l'équipe. J'ai été intégrée hyper bien à l'équipe après.
Et ils t'ont fait faire des soins tout de suite. Enfin, t'étais vraiment intégrée dans l'équipe. Quoi.
Ouais, tout de suite hyper intégrée. Donc j'étais très triste de les quitter quand je suis partie à Francfort d'ailleurs.
Ah, j'imagine. Bon, du coup, ça devait un peu chambouler tes plans, toi qui te disais « Moi, je vais arriver en Allemagne, je vais me prendre peut-être un poste un peu moins technique pour apprendre la langue. » Et puis, clac, tu débarques en réa tout de suite. Ça s'est bien passé pour toi ? Il n'y avait pas trop d'appréhension ?
Il y avait énormément d'appréhension. Mais en fait, l'avantage de la réa, c'est que quand les patients sont intubés, t'as pas trop de conversations avec eux. Donc je me suis dit qu'en maison de retraite, il y a énormément de relationnels. Chose qu'il n'y a pas en réa, et donc c'était quand même beaucoup plus simple pour moi. Et quand il y avait les familles qui étaient là, qui avaient des questions, là pour le coup j'étais extrêmement mal à l'aise, mais j'envoyais tout de suite vers mes collègues ou vers les médecins.
Ok, donc ouais, t'arrivais quand même à te débrouiller
oui.
Avec le reste de l'équipe, quoi. Ouais. Donc une infirmière qui travaille en réa en Allemagne, c'est une infirmière de soins généraux du coup, ou est-ce qu'ils ont une spécialisation pour ça ?
Alors il y a une spécialisation qui existe pour la réa et l'anesthésie, mais on peut très bien être infirmière lambda et travailler là sans faire la spécialisation. J'ai pas l'impression que ça apporte grand chose d'ailleurs, cette spécialisation, pour être très honnête, mais en dialyse, réa et anesthésie, ça arrive qu'il y en ait qui la fassent. C'est plutôt pour monter, pour devenir faisant fonction de cadre dans les services que c'est utile.
D'accord, pour grimper un peu dans la hiérarchie, mais peut-être pas plus que ça au quotidien pour les soins.
Au quotidien, on fait tous la même chose.
Et d'ailleurs, au niveau des soins prodigués, est-ce que, au niveau du référentiel de formation, il y a des différences, des soins que tu as fait en Allemagne que tu n'as pas le droit de faire en France ou inversement ?
Alors, des soins faits en Allemagne que j'ai pas le droit de faire en France, j'en ai pas fait, mais jamais. En revanche, des soins faits en France qu'on n'a pas le droit de faire en Allemagne, il y en a, mais à la pelle.
Ah ouais,
il y en a énormément. En fait, en Allemagne, déjà, la formation n'est pas du tout uniforme comme en France. En France, tu as un diplôme d'État. En Allemagne, c'est une formation professionnelle. Donc, quand je dis que moi, j'ai fait des études, on me demande des études de quoi ? Des études d'infirmière. mais c'est pas du tout une évidence ici, parce qu'il y a des études d'infirmière, c'est possible de les faire, mais en fait, la plupart des gens choisissent de faire une formation. Qui est en alternance et qui est pas très bien reconnue. Et en fait, c'est pas une formation qui est uniforme du tout. C'est selon les régions, selon les instituts de formation, tu vas pas apprendre les mêmes choses. Et clairement, à Karlsruhe, là où j'étais, je me souviens avoir mais pourri une étudiante parce qu'elle avait éternué et s'était désinfectée à la solution hydroalcoolique. Et j'ai dit non, mais là tu vas te laver les mains pour de vrai. Oh. Et puis elle comprenait pas. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est le truc que t'apprends en première année d'école, quoi. Mais j'étais vraiment. Je pense que les étudiants, ils avaient peur de moi parce que je les traumatisais avec l'hygiène, quoi. Et donc les choses que t'as pas le droit de faire en Allemagne, c'est tout bêtement faire une prise de sang. Tu prélèves sur cathéter en réa, mais tu piques pas, tu vas pas poser de perfusion. Tu peux brancher des médicaments sur une perfusion déjà posée, mais tu ne vas pas poser de perfusion. Enfin, ça, c'est ce que j'ai fait.
Et du coup, qui s'occupe de ces soins alors ?
Alors ça, c'est très très drôle, parce que plus tard, quand j'étais à Francfort et que je bossais en anesthésie, je me rappelle un truc mais inimaginable en France. Je pense qu'en France, la nénette, elle se serait fait mais pourrir par le médecin. Quand j'étais au bloc, donc il y a le chirurgien qui reçoit un appel. Donc c'est une infirmière de bloc lui tend le téléphone et puis elle lui dit « Oui, il y a l'infirmière du service qui vous appelle, il faudrait que vous veniez reperfuser Madame Machin. » Et puis le chirurgien dit « Oui, je finis de recoudre le patient et j'arrive. » Et moi, mais je bouillais, mais je me disais « Mais attends, c'est complètement...
» C'est surréaliste.
« Je vais monter, moi, je vais y aller, je vais leur poser leur perf, quoi. »
Mais, et un chirurgien, alors sachant qu'on précise, en France, un chirurgien jamais ne poserait une perfusion. Ça serait un anesthésiste ou un médecin, mais en tout cas pas un chirurgien.
Ouais, mais c'était vraiment le truc complètement ouais, surréaliste, quoi. Mais voilà, et pareil, j'avais vu en réa, on faisait pas les gaz du sang. Enfin, j'ai jamais piqué de gaz du sang, alors qu'en France, les gaz du sang, j'en faisais tous les matins. Et il y a une petite médecin, toute jeune médecin diplômée depuis un an, je te dirai après, il n'y a pas d'interne en Allemagne, mais c'était plus ou moins comme une interne. Elle me dit « Oh là là, il faut que je fasse un prélèvement des gaz du sang, je ne sais pas faire, machin. » Et puis je lui dis « Bah attends, je te montre. » Et puis elle m'a regardée avec des grands yeux, mais... Toi, mais t'es infirmière. Je lui ai dit oui. Ça, a priori, je suis au courant. Et donc
c'est un prélèvement de sang qu'on fait vraiment au niveau d'une artère. Ça n'a rien à voir avec une prise de sang. C'est beaucoup plus technique. Mais du coup, elle était. C'est vrai qu'en France, c'est quelque chose que les infirmiers font sans problème. Et du coup, elle était hyper interloquée de te voir.
Ah ouais, non, mais elle a pas compris. Et quand je lui ai dit, mais attends, tu fais comme ci, comme ça. Bah, elle était scotchée, quoi. C'était vraiment très très drôle.
Et donc, pas d'interne, alors, à l'hôpital ?
Alors, pas d'interne. En fait, ils trouvent le système d'internat complètement injuste, ce qui n'est pas totalement faux.
C'est vrai.
Ici, les médecins, ils font 5 ans d'études. Après, ils ont une année à l'hôpital, où ils sont vraiment dans plusieurs services, ils naviguent un peu. Et à la fin donc, de cette sixième année qui est sans cours uniquement à l'hôpital, donc ils passent leurs examens et donc ils ont leur diplôme. Et ensuite, après avoir eu leur diplôme, ils sont assistants pendant 2 ans dans le service de leur choix. Et au bout de 2 ans, bah, si ça leur a plu, ils vont se spécialiser dans cette spécialité. Ils vont aller dans un hôpital universitaire où ils vont refaire 2 ans de spécialisation, et à partir de ce moment-là, ils seront vraiment médecins spécialisés.
Et puis, ils arrivent sur une durée d'études qui est du coup quasiment similaire à la France, ça fait quasiment 10 ans, quoi.
Exactement, ouais, exactement, sauf que du coup, ils sont salariés au bout de 6 ans. Mais voilà, et si au bout des 2 premières années, ils se rendent compte, bah non, le service où je suis me plaît pas, bah ils refont une spécialité, ils peuvent rester 15 ans.
À faire ça, voilà. Jusqu'à trouver le truc qui les passionne.
Et ils sont pas obligés de faire une thèse. Il y a des médecins qu'on n'appelle pas docteurs parce qu'ils n'ont pas fait leur travail de thèse.
Ah, d'accord.
Donc, tu peux arriver à la retraite et jamais avoir fait de doctorat.
Ah, ok. Ah, c'est vraiment un autre fonctionnement.
C'est vraiment assez déstabilisant au début.
J'imagine. Et au niveau des autres corps de métier que tu as pu rencontrer à l'hôpital, aide-soignant, kiné, psychologue, il y a des métiers comme ça que tu as vu vraiment exercer différemment ou des corps de métier auxquels on ne pense pas en France ?
Alors, les aides-soignants, j'en ai jamais vu. Je sais que ça existe, mais j'en ai jamais vu. En fait, en réa, il n'y en avait pas. Ensuite, j'ai bossé en anesthésie et en anesthésie, il n'y en avait pas. J'ai bossé en dialyse aussi. En dialyse, on n'avait pas d'aide-soignant. Et maintenant, je suis en soins à domicile. Enfin, pas des soins infirmiers, je suis en soins à domicile. J'ai des auxiliaires de vie et donc j'ai pas d'aide-soignant. C'est vraiment terrible quand t'arrives de France et que t'as pas d'aide-soignant avec toi. En réa, c'est vraiment dur. Les aides-soignants, c'est vraiment une profession hyper hyper importante. Mais non, on n'a pas d'aides-soignants. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai jamais vu. Je pense qu'en service généraliste, il y en a.
Mmh. Le métier existe, mais il est moins répandu.
Voilà, exactement. C'est pas très répandu. Okay. Les kinés, j'en ai vu en réa. On travaille pas mal avec eux, mais sinon des corps de métier un peu spécifiques, non, j'en ai pas vu
pas
d'autres. Non.
Et au niveau de l'organisation des journées de travail, plutôt en 12 heures, les systèmes de garde, les vacances, est-ce que c'est radicalement différent aussi ?
Alors, c'est assez différent. Alors, j'ai pas connu de 12 heures en Allemagne, malheureusement. Ce qui est vraiment déstabilisant, c'est qu'en fait, c'était déjà le cas en Alsace, d'ailleurs, à l'hôpital où je travaillais, c'est que tu fais des 8 heures, mais c'est complètement anarchique. Ça va être, de temps en temps, tu seras du matin, d'autres, tu seras d'après-midi, parfois, tu seras de nuit. Et en fait, moi, j'avais des sessions de 12 jours d'affilée qui pouvaient se terminer par 2-3 nuits.
Oh là là.
Et ça, c'était vraiment hardcore. Parce qu'en fait, comme tu bosses en 40 heures, ils peuvent te caler plein d'heures. Donc, tu peux avoir 12 jours d'affilée sans avoir de repos. Et terminer les 12 jours avec 3 nuits, je peux te dire qu'à la fin, tu...
Ah bah tu sais plus comment tu t'appelles.
Tu marches plus, tu roules jusqu'à chez toi après en dormant. C'est vraiment pas évident et pas facile à imaginer pour des Français.
Et la durée légale de temps de travail, du coup, c'est 40 heures par semaine.
C'est 40 heures par semaine. Okay. Donc c'est ça aussi, c'est à prendre en compte parce que mine de rien, 5 heures par semaine en plus. C'est pas négligeable. et qu'est-ce que je dirais, quand j'étais en anesthésie, donc quand je suis arrivée à Francfort, j'étais en anesthésie et là je faisais pour le coup des journées de 8 heures, parfois j'avais une journée un peu plus longue et puis j'avais des gardes, j'avais une ou deux gardes par semaine de 24 heures où j'étais sur place, j'avais mon petit appart. Et puis, quand je devais aller au bloc, ben, je devais y être dans les 5 minutes qui suivaient.
Ok, et t'appelais au besoin pour les patients.
Exactement.
Ok. Tu m'avais dit dans le premier message que tu m'avais envoyé que tu allais me parler un petit peu de l'aspect inconciliable, on va dire, de la vie de famille et de la vie d'infirmière. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire davantage ?
Ouais, alors, donc j'ai été enceinte la première fois en 2013, quand j'étais à Francfort en anesthésie. Et je me rappelle une conversation pendant la pause avec un des infirmiers qui disait « Non, mais ma femme, elle ne veut pas d'enfant tout de suite parce que sinon, sa carrière sera finie. » Donc, je me dis « Bon,
oh.
D'accord.
Ah » oui,
déjà,
bien
ça...
1902.
Moi, avec mon gros bide à côté, je me dis « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Bon. Et puis, il se trouve qu'après, juste avant mon congé maternité, je suis allée voir le médecin du travail. Et le médecin du travail me dit, j'imagine que vous prenez un congé long parce que ce genre de choses, ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Je me dis, ouais, je préfère pas que ça arrive qu'une seule fois dans ma vie, mais pourquoi pas. Et puis, je lui dis, oui, j'ai prévu de prendre un congé long. Je pensais prendre 6 mois, 1 an maxi. Et puis elle me dit bon bah on se revoit dans 3 ans. Alors je dis bon bah alors on s'est pas très bien comprise
sur le mot long.
Et pareil, c'était quand le pédiatre qui me dit oui, si vous voulez mettre votre enfant tôt en collectivité, vaut mieux penser à ce vaccin etc. Et puis je dis bah je sais pas, je veux le mettre à 1 an. Il me dit ah ouais, c'est tôt. Bon. Donc déjà là, okay. Je me dis c'est quand même un peu étrange cette façon de voir les choses. Bref, donc ça c'était pour mon premier enfant. En fait après j'ai trouvé un job en dialyse qui était parce que j'avais dû quitter mon job en anesthésie parce que j'avais pas de place en crèche et je voyais l'échéance arriver, la fin de mon congé parental. Et voilà, donc j'ai posé ma démission et j'ai cherché ensuite ailleurs quand j'ai eu ma place en crèche. J'ai commencé à bosser quand mon fils avait 17 mois. Et donc en dialyse, après, je suis tombée enceinte assez rapidement de ma deuxième. Je devais revenir travailler et là, ils m'ont dit « On peut pas te remettre au poste où tu étais. » J'avais un poste génial où je faisais du 6h-15h. Et c'était parfait. Je allais chercher mon fils à la crèche et c'était génial. Et là, ils m'ont dit « Là, le poste qu'on a, c'est un poste où tu devras aussi faire des après-midi. » Donc c'était genre du 10h-17h. Et des soirées en dialyse, les soirées c'est de 16h à 2h du matin.
Ah, donc 2h du matin.
Ah bah ouais, non mais c'est le truc complètement débile parce que du coup tu rentres chez toi à 3h et ton enfant il se lève à 7h. Enfin, donc galère.
Pas trop envie.
Donc j'ai dit, c'est pas grave, de toute façon en étant infirmière, je vais trouver un job en claquant des doigts, c'est bon. Et donc j'ai posé ma démission encore. Et en fait je me suis rendu compte que claquer des doigts quand on a deux enfants, c'est plus pareil. Et je suis arrivée à des entretiens d'embauche où on m'a demandé « Mais quel âge ont vos enfants ?» Et quand je répondais à l'âge de mes enfants, on me disait « Mais et qu'est-ce qu'ils font en crèche ? Enfin, pourquoi vous en occupez pas ?»
Ah oui, carrément.
Et en fait, je ressortais de là mais complètement mais mortifiée en me disant « Mais jamais, jamais, jamais je vais réussir à retravailler en Allemagne, c'est pas possible. » Je disais à mon mari « Il faut qu'on rentre en France, j'en ai marre, c'est horrible. »
Et vraiment... Et ça, c'est une pression qu'on fait subir surtout à la maman, d'après ce que t'as, ouais. ce que t'as vécu. Ton mari, on lui a jamais fait des réflexions comme ça ?
Non, mon mari, jamais. Enfin, c'est même pas imaginable. Et vraiment, non. En fait, le problème, c'est que les crèches rappellent... Mais genre, quand l'enfant a 37,8, il faut aller le chercher. Et du coup, ils ont pas envie d'embaucher des jeunes mamans. Et genre à chaque entretien je dis non mais j'ai un mari vous savez lui aussi il peut gérer
je suis pas toute seule.
À chaque fois je disais non mais ils vont dans une crèche française qui est ouverte jusqu'à 18h et là on me regardait avec des grands yeux mais 18h mais des enfants de moins de 3 ans leur maman doit s'occuper d'eux. Et sinon j'avais l'extrême inverse où j'avais des hommes qui me faisaient passer les entretiens et qui me disaient bon alors ce week-end vous êtes dispo parce que comme ça vous allez bosser de nuit. Alors je leur dis non ça non plus je veux pas. Et j'ai fini par trouver un job en soins à domicile comme coordinatrice, donc former des auxiliaires de vie, trouver des clients, c'est plus des patients, c'est des clients, ça c'est dur. Mais hyper hyper stressant, tu vois là j'ai pu me libérer pour te parler.
Génial. Ouais, plus compatible avec une vie personnelle, une vie de famille à côté.
Exactement, j'ai mon fils en homeschooling, je peux gérer mon fils en homeschooling. Si mes enfants sont malades, je peux les emmener au bureau. Enfin,
c'est un bon entre deux quoi. Mais c'est triste quand même de devoir se heurter à des murs et des murs comme ça. C'est déjà que la vie de jeunes parents, c'est franchement pas toujours simple. Avec 3 enfants, j'ose pas imaginer. et vraiment de devoir toujours prouver que si on a besoin de travailler et puis que les gens te font des réflexions gratuites comme ça, c'est hyper pénible, quoi.
Ouais, c'est très pénible. Et en fait, on a une vision des gens qui sont expatriés qui est un peu faussée aussi, je pense. Mais si votre mari est expatrié, pourquoi est-ce que vous avez besoin de travailler ? Enfin...
Vous roulez sur l'or, enfin.
Mais en fait, on n'est pas expatriés dans ce sens-là.
Oui.
On est comme vous, en fait. Hein.
Donc, c'est juste des Français qui vivent en Allemagne. C'est encore différent.
C'est pas évident.
Et d'ailleurs, la vision soit de l'infirmière française, soit des Français en règle générale, vue par les Allemands, elle est comment ?
Alors, de l'infirmière française, ça dépend un peu du niveau d'éducation. Des gens un peu éduqués, ils savent que les infirmières françaises, ils ont un bon niveau. J'avais rencontré une dame qui faisait de l'audit, qui faisait des formations sur l'hygiène, qui disait « Ouais, vraiment, en France, vous êtes au taquet sur l'hygiène, c'est super. » Et puis elle me disait « j'ai rien à vous apprendre sur l'hygiène, c'est bon, vous connaissez.
»
Et puis en parallèle, t'as des gens qui pensent que tu viens d'un pays sous-développé, qui pensent que tu connais rien, voilà. Mais j'ai pas mal de patients qui sont hyper désagréables avec les étrangers et qui, avec moi, étaient pas méchants. Et j'ai une collègue qui m'a dit « Oui, mais c'est parce que toi, c'est pas pareil. »
Ah.
Alors j'ai dit pourquoi c'est pas pareil ?
C'est-à-dire ?
Parce que tu viens pas ni des pays de l'Est, ni du Maghreb, ni d'Afrique. Et que ça se voit pas sur mon visage que quand je suis en blouse, que je suis pas allemande.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, donc le racisme est assez présent.
Ah oui, assez présent, oui, donc.
Et c'est pas toujours facile.
Ah oui, j'imagine, oui, sous-entendu, tu ressembles à n'importe quelle autre Allemande, donc ça passe, quoi.
Donc ça passe, exactement. J'ai pas mal de clients, d'ailleurs, qui me demandent si la personne qui va venir chez eux, l'auxiliaire de vie qui va venir chez eux, est vraiment allemande. Une fois, il y en a une au téléphone qui me dit « Non, mais elle me demande à quoi ressemble son employé. » Je lui dis que... elle me dit « Mais elle a les cheveux foncés. » Je lui dis « Oui, la peau aussi. » Elle me dit « Mais on prévient avant d'envoyer des gens comme ça chez les gens. » Alors je savais pas où me mettre, j'étais vraiment mortifiée, je me disais la pauvre employée, voilà.
Ah mais quelle horreur.
Mais en tant que Française ça va globalement, mais je trouve ça, c'est vraiment, vraiment dur, mais apparemment c'est normal. Donc,
il y a un racisme ambiant intégré quoi.
C'est assez terrible, en fait j'arrive pas à être blasée sur ce truc là, parce que vraiment je trouve ça abominable.
Oui, je crois qu'il faut objectivement voir mieux, ne jamais s'y faire, ne jamais s'y habituer. Je crois que c'est encore la meilleure solution.
Non.
Et parlons de choses plus légères, du coup, mais sur le plan culturel, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé, je sais pas, moi j'ai un exemple tout fait, mais j'ai de la famille en Allemagne, et quand j'allais en vacances chez eux, j'étais toujours interloquée par la taille du petit déjeuner, que je trouvais ahurissante. On mangeait des saucisses et voilà, au petit déjeuner, je trouvais ça toujours assez drôle. Alors voilà, peut-être pas forcément ce qui se passe dans le plateau des patients à l'hôpital, mais est-ce que voilà, tu penses à une petite différence culturelle comme ça qui t'a un peu surprise?
Alors justement, c'est drôle que tu me parles du petit déjeuner, parce que oui, le premier petit déj de mon fils à la crèche, il y avait du salami et j'étais mais horrifiée. mais en fait, on s'y fait. Moi, j'aime bien le petit déjeuner allemand. Ce qui me perturbe un peu plus, c'est le petit déjeuner au dîner. Les Allemands mangent un repas chaud par jour, c'est le midi, et j'ai des clients qui, comme pour s'excuser, une fois me disent qu'ils mangent un repas chaud le soir, et je dis bah oui, enfin moi aussi. Donc et puis là ils regardent ma carte de visite, ils me disent ah oui on a compris pourquoi, ok. Mais effectivement, moi ce qui m'a vraiment perturbée, c'est les repas à l'hôpital servis à 17h le soir, où t'as une tranche de pain, deux tranches de pain si t'as de la chance, une rondelle de mortadelle ou du fromage, et pour décorer, un huitième de tomate.
Ah oui, c'est vraiment eux, c'est le dicton, je sais plus comment on dit, petit déjeuner comme un roi,
ouais, exactement,
manger comme un prince, et puis dîner comme un mendiant, je sais plus,
ça. Quoi. Exactement, bon après c'est bon pour la santé, hein. Moi je suis une adepte du dîner tôt, mais le dîner petit-déj à 17h, je me rappelle quand j'allaitais, quand j'ai accouché tout bêtement, hein, le dîner à 17h et après va tenir en allaitant jusqu'à 8h du matin.
Ça fait long. Hein.
C'était vraiment long. Du coup pour ma troisième, j'ai réglé le problème. J'ai accouché en ambulatoire. Comme ça, je suis rentrée. comme ça, j'ai pas eu à subir ça. Mais vraiment, dur. Et aussi, un truc bête, c'est quand t'es enceinte en France, je trouve que les gens, ils te laissent la place dans le métro. C'est génial. Et ici, on se plaint en France, hein, mais... On se plaint moins quand on a vécu ici. Ici, quand t'es dans le métro, que t'as ton gros bide, tu es debout, t'as une gros bide, la poussette et tout, et puis tu dois laisser ta place aux autres, je sais pas, mais... Et en fait, on m'a dit, mais il faut demander. Les gens, ils vont pas spontanément voir ton gros bide et se dire que t'as envie de t'asseoir. Il faut demander. Et en fait, c'est vraiment un truc, si t'as pas compris ça en Allemagne, tu peux être très très malheureux pendant des années.
Il faut aller vers les autres pour exprimer ce qu'on ressent.
Et quand tu veux passer au supermarché, qu'il y a quelqu'un qui te bloque avec son caddie, et ben si tu veux passer, tu demandes à passer. T'attends pas qu'on te laisse passer. Enfin, c'est des trucs pour nous, ça semble évident, mais pour les Allemands, c'est pas évident.
Oui, comme tu dis, si t'es pas au courant, c'est un coup à être malheureux pendant un bon moment, quoi.
Je pense. En fait, à chaque fois que j'allais en ville, je rentrais chez moi, je pleurais, mais toutes les larmes de mon
corps. Ils sont méchants.
Non, j'ai vraiment. Là, il y a eu 5 ans que j'ai passé ici où ça a été vraiment dur, mais bon. Ça va mieux, heureusement.
Ouais, bah c'est sûr, il faut du temps pour s'adapter, mais ça fait partie des petits détails qui font qu'on passe une vie plus ou moins agréable au quotidien, donc c'est bon de le savoir.
Une spécificité culturelle, c'est que les heures, tu dois les respecter. C'est pas comme quand je bossais en France, par exemple, si t'arrivais en avance et que tes collègues étaient un peu dans la panade, et bah t'allais aider tes collègues, et
complètement, ouais.
Et voilà, et c'était pas compté sur tes heures, t'avais pas encore pointé. En revanche, en Allemagne, j'ai jamais pointé, mais quand j'arrivais 5 minutes avant l'heure, bah j'étais priée d'aller m'asseoir boire un café. Et une fois, j'ai pris une pause, et parce qu'il y avait une pause obligatoire de 30 minutes tous les matins, et j'ai pris ma pause, ouais, c'était génial, alors qu'en France, dès qu'on s'asseyait, la cadre arrivait et nous spillait en mode « mais vous avez vraiment rien à faire ». Là, c'est vraiment c'est pause obligatoire de 30 minutes, c'est hyper réglementé, c'est par tour, etc. Et j'avais pas regardé l'heure en partant en pause, et je reviens au bout de 20 minutes. Et mon chef, il regarde l'heure, il me dit « mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te rasseoir 10 minutes ». Alors, je me suis trouvée gourde de me faire engueuler pour ça. Et donc, voilà, c'est vraiment... Et j'ai jamais pointé en Allemagne. Et alors, une autre subtilité, ouais, c'est pour le système de... Je voulais te parler du système d'assurance de santé, parce que je te disais que j'avais pu m'inscrire à la Sécu assez facilement. Il y a une grosse différence entre... c'est un système à deux vitesses très inégalitaire qui me débecte un peu. T'as des assurances publiques et des assurances privées. Et selon ton salaire et ta condition de vie, tu as une assurance publique ou privée, et les patients privés sont pris en charge par des médecins expérimentés. Les patients publics sont pris en charge par le petit assistant dont je te parlais tout à l'heure.
Vraiment, le système à deux vitesses. Quoi.
À deux vitesses, vraiment, en tant que Français, c'est hyper, hyper choquant. Quand tu es privé, tu as un rendez-vous en ville chez un médecin hyper rapidement. Quand tu es public, tu attends 2 mois, 3 mois.
Oh là là, la précarité complète. Quoi.
Ouais, donc ça, c'est un petit peu dur. Et surtout qu'en étant infirmière, tu n'as pas le droit au traitement privé puisque tu ne gagnes pas assez. les salaires d'infirmiers sont encore pires qu'en France. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment un truc, une grosse spécificité. Allemande, qui me semble bon de souligner.
Et oui, le salaire moyen d'une infirmière est vraiment nettement inférieur en niveau de vie par rapport à la France.
Ouais, c'est très inférieur à ce que je gagnais moi en étant infirmière jeune diplômée. Là, par exemple, je suis faisant fonction de cadre, j'ai des responsabilités, j'ai des astreintes, et je gagne moins que ce que je gagnais en tout début de carrière dans la fonction publique.
En effet.
Donc non, c'est pas l'Eldorado l'Allemagne. Hein.
Ouais, c'est ce que je découvre. Ouais.
Juste histoire de casser les idées reçues. On s'expatrie pas en Allemagne pour être infirmière comme ça. Voilà.
En tout cas, pas pour le salaire.
Non.
Eh ben, merci beaucoup Aurélie. On va finir ce petit entretien par le mythique portrait chinois que je n'ai pas traduit en allemand, comme tu t'en doutes bien.
Ah, c'est dommage.
Ouais, je suis vraiment navrée. Tout ce que je sais dire, c'est Krankenschwester pour infirmière, mais c'est déjà ça, mais pas beaucoup plus. Hein. Alors la première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique ?
Alors quand je suis arrivée en Allemagne, clairement, un traducteur intégré. Je me baladais avec mon petit dico dans la poche, c'était pas très pratique. Et aujourd'hui, plus trop le traducteur intégré, mais vraiment quelque chose qui permette aux gens de se comprendre, d'éviter les malentendus. Parce que parfois... parfois ça aiderait bien quand même.
J'imagine. La question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail, si tu peux nous la traduire en français.
Ouais, je voulais la traduire en français parce que je suis sympa. Alors ça dépend auprès de mes clients, c'était « il faut nous laisser vous aider ». Parce que parfois il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais qui sont incapables de lâcher prise. Et quand tu peux pas lâcher prise, ben c'est impossible d'aider. Donc vraiment, laissez-vous aider. Et auprès de mes employés, je leur dis aussi que le ménage, c'est important. Je passe ma vie à dire à mes employés, faire le ménage chez les gens, c'est aussi important, ils en ont aussi besoin. Parce que c'est vrai que pour une auxiliaire de vie, c'est pas hyper agréable d'aller chez des gens juste pour faire le ménage, mais parfois, malheureusement, c'est la porte d'entrée qui va permettre aux gens de se laisser aider, justement, on en revient toujours à ça.
La question suivante, si tu étais un médicament ?
Alors, là, je sais que ça va pas te plaire. Non, alors, j'ai pensé au Spasfond, qui est introuvable en Allemagne, et je m'en fais livrer, mais des tonnes et des tonnes, surtout pendant les grossesses. Il y a une molécule qui ressemble, mais c'est pas tout à fait ça.
C'est vrai qu'en Suisse, c'est pareil, le Spasfond, je travaille en Suisse, le Spasfond n'existe pas. Il y a le Buscopan à la rigueur.
Oui, le Buscopan.
C'est la même chose pour toi.
Buscopan, on l'appelle, mais
Buscopan,
oui. mais c'est pas pareil, hein, ça marche pas.
Non, c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas tout à fait pareil, et je suis désolée, mais ici, le paracétamol est très mal aimé. C'est vraiment... Je sais que le paracétamol, c'est bateau, mais vraiment, ici, il est extrêmement mal aimé. Alors, c'est l'inverse. En France, l'ibuprofène, on y va hyper... en faisant hyper attention. Et ici, c'est le paracétamol. On met de l'ibuprofène, mais à toutes les sauces. Mais alors, le paracétamol, on n'en donne pas.
Voilà. Ah, c'est rigolo, c'est intriguant, ça.
C'est vraiment spécial. Ils ont plus peur des effets secondaires du paracétamol que des effets secondaires de l'ibuprofène.
Des anti-inflammatoires. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est assez intriguant.
Bon, après, effectivement, le paracétamol a des effets secondaires pas cool. On a tendance à trop l'utiliser en France, mais voilà. C'était juste pour embêter mes Allemands. voilà. Le Spasfond et le paracétamol en force.
question suivante, plutôt thé ou café ?
Alors, thé, à fond. Mais depuis que j'habite en Allemagne, le latte macchiato me manque énormément quand je suis en France. Je m'en prends un par jour. Et en France, je trouve ça abominable. Les rares fois où j'en trouve, je le trouve dégueu. Latte macchiato une fois par jour, mais sinon thé.
Question suivante, plutôt crocs ou baskets ? Même si du coup, aujourd'hui, tu dois plutôt être finalement en civil ou peut-être avec une blouse juste en haut.
Je suis en civil, j'ai mes chaussures de ville, je suis très contente. Mais quand j'étais à l'hôpital, c'était ni crocs ni baskets, c'était sabots. C'est beau parce que les crocs, c'est ouvert et c'est interdit. C'est interdit en réa et en dialyse d'avoir des chaussures avec des trous.
Avec les petits trous au-dessus. Ah ouais, trop dangereux. Ok.
Mais on est en Allemagne, hein, la Birkenstock aussi. Hein.
Mais oui, avec la coque, la Birkenstock, avec tous les orteils recouverts, je vois très bien.
Voilà.
Question suivante, plutôt 10 ans dans le même service ou 10 services en un an?
Oh là là, 5 services en 5 ans. Non, 5 services en 10 ans, ça colle plutôt pas mal avec mon CV. Mais ouais, j'aime bien le changement, moi. Et puis je pense que en fait, le fait d'être infirmière, ça te donne une adaptabilité. Enfin, tu peux travailler partout, quoi.
Ouais, complètement.
Ça, je trouve ça chouette.
Il faut en profiter. Question suivante. De quoi manques-tu au travail?
De quoi je manque au travail? De bras, de temps, de cerveau annexe pour stocker toutes les informations. clairement, voilà. Je manque de ça.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé ce métier, vers quelles études ou métiers te serais-tu orientée? Ou si aujourd'hui tu devais changer de métier, vers quel autre métier tu t'orienterais?
Alors aujourd'hui justement, du fait de mes difficultés en Allemagne avec le travail d'infirmière, j'ai entrepris pendant mon congé parental une formation à distance de naturopathe.
Génial.
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en Allemagne, la prévention, c'est quelque chose d'hyper important qu'on a tendance à ne pas beaucoup faire en France. Et tout ce qui est alternatif, etc., ça me plaît beaucoup. Et donc je suis en cours, j'avance pas beaucoup, mais voilà. Donc naturopathie, ça me plaît bien. Puis même si je m'en sers pas pour exercer, même si je n'ouvre pas un cabinet, je trouve que ça aide beaucoup pour soigner et faire de la prévention auprès de mes clients / patients.
Complètement, oui, d'une façon ou d'une autre, ça t'aidera soit sur le plan perso, soit dans ce que tu fais déjà, c'est certain.
Complètement.
Eh ben, merci beaucoup Aurélie.
Ben, merci.
C'était hyper intéressant de poursuivre ce tour du monde des soignants avec toi et puis de voir autant de différences dans un pays qui pourtant est pas si loin d'une autre.
Ouais.
C'est très très intéressant.
Mais écoute, merci beaucoup à toi pour ton accueil et vraiment s'il y a des infirmières qui ont envie de s'expatrier, faites-le, c'est génial. Ça permet de développer vraiment sa créativité et de vivre des trucs incroyables.
Ouais, c'est sûr. Un grand merci Aurélie.
Merci beaucoup.
Et bonne continuation.
Merci.
Aurélie me disait en off avoir beaucoup souffert du manque d'informations et de ressources à l'époque où elle a traversé la frontière allemande pour venir y exercer en tant qu'infirmière. J'espère donc sincèrement que son témoignage aidera ceux qui souhaitent exercer chez nos voisins allemands. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.